Paso doble.
Paso doble.
Mercredi, cinéma.
Bonjour Paul Vecchiali.
Bonjour.
Votre dernier film, Le Cancre, sort aujourd'hui. Et on parle de hasard de calendrier, mais je ne sais pas si vous croyez au hasard. Mais il sort alors qu'on est en train de ressortir quelques films de Douglas Sirk, des mélos flamboyants, comme certains critiques de votre génération disaient. Est-ce que vous diriez la même chose, flamboyant? Est-ce que si c'est le terme qui doit accompagner les films de Douglas Sirk?
Ça dépend lesquels. Je pense par exemple à Tout ce que le ciel permet, je trouve qu'il n'est pas flamboyant du tout. En revanche, son chef-d'œuvre, selon moi, en tout cas, Le temps d'aimer, le temps de mourir, c'est, là oui, c'est flamboyant. Et en même temps, il y a un petit bémol à ça, c'est-à-dire que le contexte politique, le contexte social est tellement fort dans le film. Et on a donc trois paliers, on a l'histoire d'amour, on a le contexte politique, enfin la guerre, enfin tout le souvenir de la guerre, les ruines, et cette bande-son absolument incroyable. Et en même temps, c'est un mélo. C'est un mélo.
Et le film ressort aujourd'hui en copie d'œuvre, en même temps que son autre film le plus connu, je crois, Imitation of Life.
Mirage de la vie en français. Ouais. Pour moi, c'est aussi sublime et je donnerais beaucoup de films américains si on met de côté Ford, Keaton et Sternberg pour la dernière scène de Mirage de la vie. C'est absolument insensé. Je veux dire, il faut être une pierre pour pas pleurer comme un gamin.
Alors, qu'est-ce qui vous fait pleurer dans cette scène? La voix de Mahalia Jackson, qui est, c'est-à-dire, c'est la musique qui vient résumer un peu la douleur de cette femme, ou c'est autre chose, Paul Vecchiali?
Je dirais c'est un ensemble, mais évidemment, Mahalia Jackson est absolument sublime. Mais ce qui me fait pleurer surtout, c'est le retour de la fille. Parce que là, il y va, quoi. Il a peur de rien. C'est complètement invraisemblable. D'ailleurs, Godard a dit, il a dit beaucoup de choses à propos de Sirk, qu'il aimait beaucoup. Il disait, Sirk est grand parce qu'il se moque éperdument des invraisemblances. Et moi, j'ajouterais, et aussi des clichés. Parce que il y a beaucoup de clichés dans ces films. Par exemple, dans Tout ce que le ciel permet, c'est vraiment, enfin, c'est un ramassis de clichés. Je dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est pas aussi grand que Mirage de la vie ou Le temps d'aimer, le temps de mourir.
C'est quoi un cliché au cinéma?
C'est quelque chose qu'on voit souvent et qui devrait être un reflet de la réalité et qui est en fait ce que les gens retiennent de la réalité. C'est ma définition, hein, je ne la mets pas dans un bouquin philosophique.
Est-ce qu'on peut faire justement un film sans passer par les clichés?
J'espère, parce que j'essaye. Ou alors on les détourne. Ce que fait Godard, je veux dire. Moi, excusez-moi de reparler de Godard, mais je pense que c'est la personne qui saurait le mieux en parler. Et je me souviens de sa critique dans les cahiers du temps d'aimer et temps de mourir, où il disait, approximativement, « Qui n'a pas vu la caméra se baisser en même temps que l'isole pulvère pour franchir la barrière n'a jamais rien vu au cinéma. » Je veux dire, quelqu'un qui se penche pour passer une barrière, c'est pas extraordinaire, simplement c'est magnifié par le mouvement d'appareil et par l'instant du cinéaste.
C'est quoi l'histoire, Paul Vecchiali, du temps d'aimer, du temps de mourir?
Eh bien, c'est un Allemand, c'est ça d'ailleurs qui est très fort, d'ailleurs, notre sœur qui était allemand, donc c'est assez normal qu'il prenne ça. C'est un Allemand qui vient en permission, après avoir subi pas mal de choses avant de partir, par exemple fusillade, on va dire l'assassinat de pseudo-partisans, et il arrive enfin à avoir cette permission. Il arrive pour retrouver ses parents et il ne les trouve pas. l'appartement a été détruit, l'immeuble a été détruit. On ne trouve même pas le numéro. On finit par le trouver, mais il n'y a plus rien. Et il va rencontrer une jeune femme avec qui il a eu des liens un peu. Il avait des liens avec elle, mais des liens cachés, qui se révèlent petit à petit. Hein. Voilà, son père a été le docteur de sa famille et bon, il serait là. Ça. Et la première réaction de la fille, c'est évidemment une réaction de colère, de violence. Et puis petit à petit, elle va comprendre qui est cet homme. Ils vont s'aimer, ils vont se marier, après bien de difficultés administratives. Et la seule chose que je regrette dans ce film, qui malheureusement est un défaut très très courant, comme chez Jean Renoir ou chez beaucoup de gens comme ça, très grands cinéastes, c'est la caricature. C'est le seul point noir de ce film pour moi, c'est la logeuse, la première logeuse, qui est vraiment absolument ignoble. J'ai l'habitude de dire un personnage méchant au cinéma, c'est un personnage inachevé. On voudrait savoir pourquoi. Alors faire l'impasse sur le pourquoi, je trouve ça un peu dommage. D'autant qu'après, il y a une autre logeuse qui est vraiment un ange. Donc, je trouve ça. Alors voilà un cliché, voilà un truc un peu schématique, on va dire, plutôt que cliché. Ça m'ennuie. Bon. Ensuite de quoi, on passe sur l'histoire d'amour classique, qui est très belle, très très belle. Avec beaucoup d'astuces sur le jugement des gens qui ont mené un jugement sans condamnation sur les gens qui ont choisi de suivre le régime et qui en profitent. Son ami qui est entouré de femmes, de champagne et tout ça. On le condamne pas parce que on le sent sincère. Enfin, on sent qu'il se rend absolument pas compte de ce qu'il fait. Et par la suite, donc, il arrive un peu, grâce à lui, à obtenir les certificats de mariage, à l'épouser. Et il y a une scène vraiment très très drôle où la fameuse logeuse marchande tape à la porte de la salle de bain en disant « Madame, mademoiselle, un tel, sortez, sortez, sortez !» Et qui sort, c'est Rock Hudson. Et il dit « Je ne suis pas madame un tel, je suis monsieur un tel et madame, moi-même, est là. » Et la femme ne peut plus rien dire, puisqu'ils sont mariés officiellement, voilà le certificat de mariage, etc. Bon, ça, c'est très très drôle. Et puis ensuite, il s'en va, et il retourne là-bas, et la première mission qu'on lui donne, c'est de surveiller deux partisans. Et non, ils sont plus que deux, d'ailleurs, ils sont trois ou quatre. Le type qui l'accompagne le laisse seul avec eux. Et il dit, mais il faut leur foutre la paix, on ne sait même pas s'ils sont vraiment des partisans, etc. Ils se battent et ils tuent l'autre Allemand. L'autre Allemand a un revolver, il est allongé par terre avec son fusil à lui. Et Rock Hudson ouvre les portes et dit, allez-vous-en. Et il s'en va lire la lettre de Lieselot Power. Et un des partisans prend le fusil du mort et le tue. Et il tombe auprès d'une rivière, ça c'est insensé. Il tombe une rivière et la lettre lui échappe des mains et elle s'en va dans le ruisseau, comme ça. Disparaît du champ. Là aussi, pour ne pas pleurer, il faut être malade.
Alors c'est un film sur quoi, pour vous, Paul Vecchielli ?
Sur la prise de conscience. Sur la prise de conscience qui se fait petit à petit chez un homme qui n'avait pas auparavant imaginé ce qu'il était en train de vivre et ce qu'il était en train de faire, surtout. Petit à petit, il va, je dirais même assez brusquement, il va comprendre, il va avoir une espèce d'éclair, il va se dire, il ne va pas dire « je suis dans le mauvais camp », mais « je suis dans un camp qui ne me convient pas ».
Et l'autre film qui sort, c'est le plus grand film de Douglas Sirk, « Imitation of Life »,« Le mirage de la vie ». Ça parle de quoi ?
Ça parle d'une femme qui a un rêve, faire du théâtre. C'est l'extraordinaire Lana Turner, qui est en plus très belle, ce qui ne gâche rien. Et elle essaye, elle fait des essais, c'est toujours une catastrophe. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui la repère, mais qui en échange demande des choses qu'elle n'a pas du tout envie de donner. Donc elle le largue, elle s'en va carrément. Elle risque de perdre beaucoup. Et puis ça va s'arranger. et elle va devenir une vraie star. Et au bout du compte, alors parallèlement à ça...
Bah oui, parce qu'il y a un drame bourgeois, et puis il y a l'autre drame du film.
Il y a l'autre drame qui est formidable, c'est un des films les plus extraordinaires fait sur le racisme. C'est vraiment, pour moi, c'est peut-être le meilleur.
Soon I will be done. Trouble of the world, oh, trouble of the world, trouble, Lord of the world, I'll sooner will be done. Trouble, Lord of the world, I'm going humbly with God no more. Weeping and wailing no more. Weeping my trouble all this world, oh my trouble in this world, love and trouble in this world, Lord, how sooner will be done. To trouble all this world, I'm going home.
Douglas Sirk était déjà connu en Allemagne en tant que réalisateur. Pour son grand malheur, Hitler aimait ses films. Il a essayé de l'enrôler avec lui pour faire des films de propagande. Il a refusé. Il a été obligé donc de quitter l'Allemagne pour aller à Hollywood, aux États-Unis. Mais il a laissé sa femme, qui était elle très proche des nazis, et qui lui interdit de revoir son fils. Et donc son fils va avoir une carrière de comédien, il va apparaître dans les films de propagande que l'Allemagne nazie va tourner. Et Douglas Sirk, pour avoir des nouvelles de son fils, le seul moyen, c'était d'aller au cinéma et de voir les films. Donc il l'a vu vieillir dans ses films. C'est incroyable, il en a jamais parlé.
On comprend qu'il soit porté vers le drame, le mélodrame, comme on dit.
Et donc le film de guerre, Le temps d'aimer, le temps de mourir, oui. Et puis l'histoire de cet enfant et du rapport avec la gouvernante dans Imitation of Life.
Oui, oui, oui. Là, alors, le personnage, l'actrice donc, qui joue la black, allez, disons les mots imbéciles.
Malia Jackson.
Oui, elle est absolument époustouflante. Enfin, il y a une espèce de rigueur, de grandeur de ce personnage qui même... je dirais, efface presque le personnage de Lana Turner. Elle est droite et qui est prête pour garder cette droiture à tous les sacrifices.
Alors, ces deux films de Douglas Sirk ressortent aujourd'hui, je rappelle, Le Mirage de la vie, mais aussi Le temps d'aimer, Le temps de mourir, en même temps que le vôtre, Paul Vecchiali, Le Cancre. Et là aussi, on a l'impression que vous dansez avec les fantômes. C'est un drame aussi, même si c'est un drame joyeux, c'est un drame où on a l'impression que vous parlez de vous-même. Et pas seulement parce que vous interprétez le rôle principal, mais ces femmes de votre vie qui reviennent telles qu'elles sont devenues, qui reviennent en tant que fantômes, qui reviennent à travers d'autres personnages. Cette ronde des belles, comme vous dites, ceci est une fiction. Et est-ce que ça a été nourri par un sentiment très personnel?
Ça a été nourri par quelque chose de précis. Quand j'avais 16 ans, même ça a commencé à 14, je suis tombé amoureux fou d'une jeune fille qui s'appelait Marguerite. Nous étions dans le Haut-Var. On s'est fiancés, puis j'ai eu après un problème de santé, j'ai cru que je pourrais pas avoir d'enfant, que, etc. D'ailleurs, un docteur m'a complètement foutu en l'air en me disant ça. Ensuite, ça s'est arrangé. Mais ma première réaction, c'était de dire, je ne peux pas monopoliser une fille aussi belle, aussi magnifique et pleine... Enfin bon, je vais en faire l'apologie parce que c'est la femme de ma vie, bon, c'est clair. Et donc, j'ai envoyé une lettre de rupture. Et puis, quand un autre docteur est venu voir, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous risquez rien, vous avez rien, dans 3 mois, vous n'avez plus rien. Je suis remonté à la Verdière, donc, pour nommer le village. Et j'ai dansé avec Marguerite, qui m'a dit, tu sais, je me marie dans 8 mois.
Ah bah si, c'est pas un mélo de Douglas Sirk, c'est votre vie.
Et c'est ma vie, oh mais j'en ai d'autres, comme ça. Mais elle a été un peu le pilier de ma vie, et je l'ai retrouvée 70 ans après. Tout à fait par hasard. Dans des conditions d'ailleurs assez énormes, parce que j'allais tourner Retour à Meyerling, et 2 jours avant, on m'annonce la mort de Jacqueline Jansul, pour ne pas la nommer, avec qui j'ai vécu 15 ans, et qui était malheureusement atteinte d'Alzheimer. Bon, déjà, c'est pas drôle. Un quart d'heure après, on m'annonce la mort de Marguerite Sauvagnac, la mort en question. C'est une espèce de salopard qui m'a joué un tour. Mais moi, abruti par le truc, je n'ai même pas regardé le numéro, j'étais assommé. Et puis après, il faut tourner. Hein. Bon. Et 2 ans et demi après, moi, Facebook, ça n'existait pas pour moi, je vois, vous avez un message sur Facebook. J'ouvre le message et je vois, je suis Isabelle, la fille de Marguerite et Paul. Elle avait épousé un autre Paul. Et je serais heureux de reprendre contact avec vous. J'ai lu votre bouquin sur votre mère, etc., etc. Je me trouve dans une impasse absolue. Je lui dis, vous savez, votre mère a beaucoup compté pour moi, etc., etc. Et elle me répond, mais si elle a beaucoup compté pour vous, appelez-la à tel numéro. Là encore, c'est fou, quoi, c'est sûr. Quoi. Et je l'appelle, et depuis, on s'appelle tous les jours. On s'est retrouvés.
Merci beaucoup.
Je voudrais simplement dire une chose. Je voudrais le dire parce que c'est important. Peu de gens le voient, j'espère que vous l'avez vu. Ce film est un entier flashback. Il commence comme il finit. La plupart des critiques ne l'ont pas vu. Ce qui fait qu'on peut mettre en doute complètement ce que ce monsieur raconte. Sauf son amour pour Marguerite. Mais il y a une scène qui est capitale, c'est quand Pascal Servoz, mon fils, donc il joue mon fils, me dit « Tu les as tout aimés ?» Je lui dis « Tu les as aimés de la même façon ?» J'ai dit « Oui, je les ai tout aimés. » Il me dit « Même Marguerite ?» Et je dis « Tais-toi. » Et là, on sent que peut-être, à ce moment-là, il est complètement sincère. Et que tout le reste du temps, est-ce que ce ne sont pas des façons de se mettre en œuvre auprès de son fils, de se fabriquer un personnage auprès de son fils? C'est là l'importance du film. C'est qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce qu'il nous raconte, en dehors de Marguerite.
Le Cancre de Paul Vecchiali, qui sort aujourd'hui, en même temps que Les Mélos de Douglas Sirk. Merci d'avoir accepté cette invitation de parler des mélos de Douglas Sirk, un peu plus que de votre film.
Oui, ah non, mais ça me paraît tout à fait normal. J'ai toujours été fasciné par Douglas Sirk. Un petit secret, je préfère Léo Macaré, mais c'est pas le même cinéma quand même. C'est pas Léo Macaré à une espèce d'arrière-plan d'autodérision, sauf peut-être dans Make Way for Tomorrow, qui lui est un mélo complet. Vraiment, il est très fort, mais bon. C'est un choix personnel, mais ce n'est pas aux dépens de Douglas Sirk que je dis ça.
Merci beaucoup, Paul Vecchiali.
Je vous en prie.
Quand même une dernière question, si vous permettez. Et l'amour, à 86 ans, l'amour, ce sentiment amoureux, c'est quoi? C'est encombrant, c'est rassurant, c'est un vague souvenir, ou au contraire, c'est un sentiment qui se conjugue toujours au présent?
Il se conjugue toujours au présent, mais ça dépend de ce qu'on appelle l'amour. Dans l'amour, il y a plusieurs choses. Il y a le sexe, il y a l'affection, il y a l'adoration, il y a... Je suis un peu vieux pour le sexe, mais tout le reste est là.
La passion aussi?
Ah, complètement. Mais la plus grande passion de ma vie, c'est quand même le cinéma à travers Daniel Darieux.